Allez, 7h30 comme promis, nos invités pour les petits déj. Je vais baisser la musique, ouais. Je vais baisser le volume, je vais remettre le volume. D'accord. Nos invités autour d'Odile de Barros. Bonjour Odile.
Bonjour Rachid, Jadel. Bonjour, bienvenue, de bonheur et de bonne humeur ce matin avec des invités, puisqu'on vous l'annonce depuis plusieurs jours. La communauté de communes, hein, une fois par mois, comme depuis de nombreuses années. Et ce matin, 3 janvier 2017, j'ai le plaisir de recevoir le président de la communauté de communes, Bernard De Kems. Bernard, bonjour, bienvenue.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Fuji.
Claude Wallendorf, premier vice-président à la communauté, au sein de la communauté de communes et maire de JV, puisqu'on en parlait ce matin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bonjour Claude, bienvenue.
Bonjour Odile, bonjour Bernard, bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Fuji.
Et effectivement, Pascal Gillot, maire de Fromelennes et vice-président en charge des transports et des nouvelles technologies au sein de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse. Une année qui démarre, une année qui vient de se terminer. L'occasion pour vous de présenter effectivement les vœux à tous les habitants de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse.
Oui, bah, effectivement, bonjour Odile, bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. Et bien, tous mes voeux de bonheur et surtout de santé à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Radio Fuji qui nous écoutent ce matin.
Bah, je m'associe bien sûr aux propos de Pascal et ce qu'on souhaite à tous nos habitants, bien entendu, c'est la santé d'abord, parce que la santé, c'est un bien extrêmement précieux. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec le contrat local de santé. Et puis, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie en famille. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Et puis, bien sûr, du travail.
Claude ?
Eh oui, je vais enchaîner en présentant également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Fuji mes meilleurs voeux pour l'année 2018 qui commence. J'aime bien personnellement les années paires. Oui, c'est un bon chiffre et je souhaite à tout le monde que cette année soit merveilleuse à tous les points de vue.
On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après une pause musicale. Nous ferons le bilan de l'année 2017 et nous parlerons tout à l'heure des projets pour l'année 2018.
Fuji FM. Fuji FM. La radio locale numéro 1. Numéro 1. Numéro 1.
Ils font du bruit à cause de moi.
Youssoufa.
Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi.
Y'a cet amour qu'on éparpille. Y'a cette musique dans la poitrine. Non, ce hip-hop n'est jamais parti. DJ, DJ, Myth, laisse encore tourner la platine. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits et ce que les rebelles pensent. Ils veulent au pire que la relève flanche. C'est pour les jeunesses d'Afrique, c'est pour les jeunesses France. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion mon avocate sera Olivia Pope. À ce qui paraît c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts,
ils font du bruit à cause de moi.
On voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. C'est pour les femmes et les hommes qui ont défié la foudre et qui dansent encore au milieu de la foule. Alors on respecte tous ceux qui respectent notre culture, je rappe à l'excès. Et mon présent sera leur futur, on n'est pas sectaire. Leur vision du monde est alléchante mais je suis perplexe. J'ai connu le rap à l'adolescence et j'ai pris perpète. Expert, on assure le récital, mais on est encore boycotté dans certains festivals. Je me rends, monsieur l'agent, dans mes concerts, y'a tous ces gens qui font du bruit
à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi.
C'est ça, même.
Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi.
Seul face au monde entier.
Seul face au monde. Seul face au monde.
Et le monde entier se met à chanter.
Love music. Love music.
On est seul face au monde entier.
C'est ça même. Hein.
Et le monde entier se met à chanter. Ça.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
va leur dire qu'ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. C'est ça même. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Youssoufa, ils font du bruit à cause.
Ils font du bruit à cause de moi.
Youssoupha, chanson française, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Avec effectivement ce matin les années communautaires pour démarrer cette année 2018. Mais avant de tourner la page, on va revenir avec les invités qui sont là, que j'ai présentés tout à l'heure. Bernard Dekens, Claude Wallendorf et Pascal Gillot. On va revenir sur l'année 2017 avec les grands événements, les gros dossier, dirons-nous, de l'année 2017.
Merci Odile. Donc, à mon avis, le gros dossier, c'est certainement une année de consolidation de la communauté de communes vis-à-vis de l'ensemble des compétences qu'on peut avoir aujourd'hui. Et consolidation parce que effectivement, nos ressources sont particulièrement attaquées par les mesures de l'État. Et donc, on est sans arrêt en train de prendre des coups sur les finances qui sont les nôtres et qui sont à disposition de nos compétences. Donc aujourd'hui, la communauté de communes, elle fait beaucoup de choses. Et donc elle retransmet au territoire un certain nombre de choses à travers beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, le challenge, c'est justement de continuer à pouvoir le faire avec beaucoup moins de ressources financières que ce qu'on ne pouvait avoir auparavant. Donc là, il y a vraiment une recherche d'un équilibre aujourd'hui de la communauté vis-à-vis de l'exercice de l'ensemble de ses compétences. Surtout qu'en plus, la loi NOTRe vient se mettre dans le jeu. Et à partir du 1er janvier, il y a un certain nombre de compétences qui vont nous être transférées de manière obligatoire. Et à chaque fois que des compétences sont transférées, eh bien, c'est manifestement des recettes à trouver pour les exercer. Et l'État, quand il transfère des compétences, il est extrêmement vigilant à ce que ces compétences transférées soient exercées le mieux possible. Alors que lui, l'État ne les exerçait pas toujours le mieux possible. Donc voilà, donc je pense que on va pouvoir décliner les choses une après l'autre après sur 2017, mais je voulais vraiment commencer en disant que effectivement un de nos challenges, et Claude qui est aux finances peut en témoigner, c'était de continuer à pouvoir offrir à notre population les mêmes services que ceux qu'on offre aujourd'hui, que ce soit en termes d'environnement, en termes de petite enfance, en termes de d'enjeux sociétaux, etc. quoi. Donc ça, c'était vraiment le plus important.
Messieurs.
Oui, je rebondirai sur ce que disait Bernard Dekens à l'instant. Effectivement, 2017 a été surtout une année de dossiers. L'État, ces dernières années, a été particulièrement actif en réformes de tout genre qui ont un impact relativement important sur les collectivités. Bernard citait tout à l'heure la loi NOTRe pour une nouvelle organisation territoriale. Il y a eu aussi la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles. Il y a eu la fusion des régions. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce que la communauté de communes est concernée par la région ? Ben, c'est simplement parce que la région a récupéré ce que nous appelons la compétence économique et de par les régions va se construire en fait toute l'aide à l'emploi, à l'entreprise, au secteur économique que nous mettons en place au niveau de la communauté de communes. Ça a eu pour conséquence de devoir écrire tout un tas de schémas régionaux, SRADET, SRAT, SRDT, enfin tous des acronymes aussi plus barbares les uns que les autres. Beaucoup de productions écrites, on ne sait pas trop ce que ça donnera au final, mais c'est un incontournable, je vais dire. On est obligé de passer par cette phase-là pour pouvoir ensuite mettre en place nos politiques. Et bon, ceci dit, il y a eu quand même quelques événements majeurs qu'on va vous décliner au cours de l'année 2017, mais l'année 2017 a aussi beaucoup été occupée par les services de la communauté, en tout cas à nombreux dossiers administratifs. Voilà.
Claude Wallendorf.
Oui, moi je vais abonder les propos de Bernard Dekens, naturellement. Hein. Les années qui viennent de s'écouler ont été très difficiles pour les collectivités locales, notamment les communes et leurs établissements publics. du fait de la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement hein, que l'État pratique depuis 2014 et qui a coûté très cher à notre communauté, de même que l'augmentation également continue de la ponction qui est faite par l'État sur les recettes de la communauté au titre de ce qu'on appelle le fonds de péréquation intercommunale et communale. Ce qui fait qu'avec tout ça, les recettes de la communauté sont de plus en plus limitées et que celle-ci, notamment depuis l'entrée de la commune de Revin dans la communauté, et que celle-ci a de plus en plus de mal à boucler son budget. Je dis assez régulièrement devant le conseil de communauté que la période des vaches grasses est terminée et qu'aujourd'hui, notre communauté de communes est devenue une collectivité comme les autres, comme les autres.
On peut peut-être citer le montant de cette ponction dont Claude parlait à l'instant. Pour 2017, il a été aux alentours de 2 100 000 euros, je crois, quelque chose comme ça.
Pour le FPIC, oui, c'est ça. Pour le FPIC, 2 millions, mais on ne calcule pas toutes les baisses de la DGF, etc. etc. Bon, c'est quand même assez conséquent.
Mmh. Oui, le FPIC, c'est le Fonds de péréquation intercommunale et communale qui a été effectivement de plus de 2 millions en 2017. Et ces 2 millions-là, la communauté de communes aurait été bien contente de les utiliser ailleurs, soit pour fonctionner, soit pour investir.
Alors, ce qui est contestable dans le système, c'est qu'en fait, il y a une ponction de l'État au titre de la lutte contre le déséquilibre financier, enfin bref, mais nous, pour équilibrer notre budget, on a été obligé d'avoir recours à une augmentation de la fiscalité, on est obligé d'augmenter un petit peu la taxe foncière pour pouvoir équilibrer le budget et continuer à pouvoir exercer les compétences qu'on exerçait auparavant, donc c'est quand même particulièrement difficile, puisque c'est clairement une double peine. Quoi. Je veux dire, les impôts particuliers ne sont pas en baisse, mais aussi, parfois, les impôts locaux sont obligés d'augmenter pour compenser aussi, je veux dire, cette recherche de rééquilibrage des comptes de l'État. Donc, c'est souvent double peine pour nous, pour les habitants. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose dont on a bien conscience et dont on mesure vraiment toute l'importance. Hein. Donc, quand on augmente un petit peu la fiscalité, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on veut continuer à offrir les mêmes services que ceux qu'on donnait avant, mais je veux dire, c'est au prix d'économies importantes aussi, hein, d'économies de fonctionnement, qu'on est toujours en recherche hein, permanente pour essayer d'économiser, bien évidemment, et puis malheureusement, parfois, il faut passer par un peu de fiscalité. Voilà, je voulais vraiment citer cet exemple-là.
Un sujet peut-être rapide avant de faire une pause musicale sur l'année 2017.
Écoutez, pour enchaîner sur ce que vient de dire Bernard de Kent, pour équilibrer le budget 2017, la communauté de communes a été par exemple amenée à mettre en place ce qu'on appelle la taxe de séjour. Donc la taxe de séjour qui est souvent mal perçue par tous ceux qui doivent la payer, enfin du moins la rétribuer à la communauté de communes, mais en définitive c'est le visiteur qui paye la taxe de séjour. C'est pas l'hébergeur local, c'est pas l'hôtelier, c'est pas...
C'est pas spécifique aux Ardennes non plus.
C'est pas spécifique aux Ardennes non plus. Nous étions même partout, hein. une des dernières communautés, je vais dire, à la mettre en place.
Dans les Ardennes.
Dans les Ardennes. Mmh. Donc, et ça existe partout ailleurs, hein, et dans des proportions bien plus chères que ce qu'elle n'est pratiquée ici sur le territoire de la communauté de communes. Donc l'idée, c'est en fait de percevoir sur chaque visiteur une petite contribution et ensuite de la rétribuer à l'Office de tourisme communautaire qui est chargé du développement et de la promotion touristique de la communauté.
Préciser, chaque visiteur séjournant dans les Ardennes.
Absolument.
En tout cas sur le territoire.
Sur le territoire de la communauté. Mmh.
Alors cette année va s'ajouter la taxe départementale, donc
qui est
de 10% de la taxe communautaire, donc qui va être collectée par la communauté de communes et rendue aussi au département. Donc si les hébergeurs constatent qu'il y a une augmentation de 10% de la taxe de séjour, ce n'est pas une augmentation qui est du fait de la communauté, c'est du fait de l'installation de la taxe de séjour au niveau départemental, qui a les mêmes, je dirais, des difficultés encore plus importantes, je crois, pour nous en parler, que celle de la communauté de communes au niveau financier. Donc, voilà, il faut vraiment être bien conscient que toutes ces affaires-là, et cet argent sert à promouvoir le tourisme. On essaie de faire en sorte que nos visiteurs deviennent des touristes. On a beaucoup, beaucoup de choses à visiter, mais il faut que les gens restent plus chez nous, donc pour y dépenser de l'argent et trouver de la valeur ajoutée au niveau économique. Bon, ça, c'est un vrai challenge, mais on ne le fait pas sans dépenser de l'argent.
J'ajouterai deux choses, Odile, si tu permets. La première, au sujet de la taxe de séjour départementale, effectivement, elle est instituée à partir du 1er janvier, et le département la reversera intégralement à ce qu'on appelle l'agence de développement touristique départementale. Voilà. Et la seconde chose que je voulais dire au sujet de la fiscalité, c'est qu'effectivement, Le conseil de communauté a été obligé cette année d'augmenter la taxe sur le foncier bâti, et seulement la taxe sur le foncier bâti, parce que celle-ci pèse essentiellement sur la centrale nucléaire de Chaux. Ouais. Évidemment, ça touche aussi les propriétaires, mais la majeure partie de cette recette provient de la centrale. Et dans ce cadre-là, le conseil de communauté a réussi, encore une fois cette année, à maintenir la gratuité de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qui est loin d'être le cas dans toutes les communautés de communes, sachant que si c'est gratuit sur l'usager, ça a un coût important sur les finances de la communauté.
On fait une pause musicale et on revient juste après sur un sujet, un dossier, en tout cas de l'année 2017.
Où que tu sois, Fuji FM est avec toi. www.fujifm.fr.
Come on, show me how to make it right. We can make it through the darkness. Hold on tight, life's a big test. Come on and let me know how to make it right. Please just come on and show me how to make it right. Come on and let me know how to make it right. Come on, show me how to make it right. Come on and let me know. Bed. It was just one night, tell me how to make it right. I'm not going anywhere till you let down your hair. Your love is worth every fight, tell me how to make it right. Please just come on and show me how to make it right. Come on and let me know how to make it right. Please just come on and show me how to make it right. Come on and let me know how to make it right.
I find it so hard to breathe when you're not here with me. I dream of you every night till daylight. I find it hard to believe a life without you and me. I won't wait one more night. Tell me how to make it right.
Please just come on and show me how to make it right. Come on and let me know how to make it right.
Merci Rachid. Rachid qui est avec nous effectivement pour animer cette émission. Rachid, il peut lever son micro. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que depuis 7h30, nous sommes en direct avec la communauté de communes Ardennes, Rive de Meuse. Trois invités, Bernard De Gens, Claude Wallendorf et Pascal Gillot, sont avec moi pour faire en quelque sorte le bilan de l'année 2017, parler des grands projets 2018, mais également vous présenter effectivement leurs vœux, ce qu'ils ont déjà fait en début d'émission et ce qu'ils feront en fin d'émission, je suppose, pour les retardataires, ceux qui n'étaient pas levés tout à l'heure. Charlemont, Alors, on était sur justement la taxe de séjour. Mmh. Hein. Du coup, on parle de tourisme, d'économie touristique, et on reste dans le tourisme avec Charlemont.
Alors, Charlemont, bien entendu, ce qui nous occupe en 2017, c'est le site de Charlemont et l'avenir de ce site-là. Donc, l'avenir de ce site-là passait malheureusement par, je dirais, la fin du bail de M. Koelitz. Bon, qui n'a pas été facile à obtenir, mais enfin, toujours est-il que les choses se sont parfaitement bien arrangées pour la communauté. On n'avait rien au départ contre M. Koelitz, et on n'a toujours rien contre lui. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, et tout ce qui était à notre pouvoir, y compris tout l'ensemble des services de l'État, pour, je dirais, l'amener à faire des choses qui soient les plus normées possibles. Bon, on s'est aperçu que finalement, les choses étaient quand même de plus en plus compliquées, et de manière tout à fait unanime, le Conseil de communauté a décidé de ne pas renouveler, je dirais, quelque part, la confiance qu'on lui avait portée au début. Bien évidemment, c'est pas ça qui règle le problème du site de Charlemont. Donc, l'avenir de Charlemont, ça reste un point d'appui et essentiel de notre développement. Hein. C'est une évidence absolue. C'est à partir de Charlemont, à partir de sites forts comme ça, qu'on arrivera à développer le tourisme. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur son avenir. Les visites, les dernières ont commencé. On a voulu vraiment les organiser pour que la population puisse se réapproprier le site. 2018 va être beaucoup plus intéressant en termes de visites, et puis on va essayer de décliner un certain nombre d'activités sur le site, mais bon, c'est un petit peu mes collègues en parler, qui connaissent bien le sujet aussi. C'est vraiment pour nous très, très, très prenant comme dossier, hein. Vraiment 90 hectares de plus le Fort Condé, hein, donc qui est quasiment terminé et qui va aussi faire partie de ces visites historiques. Donc ça risque de devenir quelque chose d'intéressant. Un chiffre, hein, 150 000 visiteurs à Dinan pour la citadelle. Bon, je ne dis pas qu'on fera 150 000 à Charlemont, mais on doit quand même être capable de faire beaucoup, un tiers. Si on faisait 50 000 visiteurs à Charlemont, on serait extrêmement satisfait. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas.
Alors effectivement, hein, ouverture pour les visites, hein, des touristes ou des locaux, en tout cas en 2017. Des activités, des projets d'activités pour la saison touristique 2018, pour ce qui concerne Charlemont.
Oui, donc 2017, comme le disait Bernard à l'instant, l'idée était que la population puisse se réapproprier le site. Mais tous les Givetois qui sont allés aux journées portes ouvertes de Charlemont à l'époque où l'armée y était encore présente savent que Charlemont présente quand même un certain nombre de dangers. Il y a des douves, il y a tout un tas de sécurisations à faire, et on ne pouvait pas dans un délai aussi court évidemment sécuriser l'entièreté du site. Donc l'idée en 2017 a été de programmer des visites guidées par groupe. Donc évidemment ça limitait de fait la fréquentation potentielle de ce site. Pour 2018, les services de la communauté ont beaucoup travaillé, et l'idée est de réouvrir une bonne partie du site, donc notamment peut-être le village de combat, toute la place d'armes, tout ce qu'il y a à proximité, je vais dire, de cette place, cette fois-ci en accès libre. Sans doute payant, malheureusement, mais aujourd'hui, tous les sites touristiques dignes de ce nom le sont. Et donc, de pouvoir déambuler sur une partie, en tout cas, du site en toute sécurité, avec des infrastructures pour pouvoir accueillir les visiteurs, et les désaltérer, les nourrir, enfin voilà, comme tout bon site qui se respecte, et pour favoriser, en tout cas, le développement de Charlemont.
Sous forme de visite guidée ?
Non, du tout, sous forme d'accès libre.
D'accord.
Il y aura peut-être des visites guidées par la suite, mais ouais. Pour l'instant, on est plutôt sur un schéma d'accès libre.
Plutôt positif pour la ville de Givet, Claude ?
Oui, bien sûr. Alors, ceci étant dit, c'est l'État, hein, qui a décidé de fermer Charlemont, le centre d'entraînement commando en 2009. Et à l'époque, le centre d'entraînement commando représentait un poumon économique extrêmement important pour la commune de Givet. Hein. Je rappelle qu'il y avait 140 emplois permanents entre les militaires et les civils. Toutes les familles qui vivaient du CEC, et les familles militaires, Dieu sait que ce sont des familles qui sont importantes. Donc pour la démographie de Givet, c'était quelque chose. L'État, à la place, a proposé un contrat de redynamisation du site de défense. Ils n'ont rien proposé pour revitaliser Charlemont d'autre que le projet de M. Koelitz. Projet auquel, moi, à titre personnel, j'étais favorable, je ne le cache pas, je l'ai toujours dit.
Tous, hein.
Bon, et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on espérait que ça se passe. La communauté de communes a accepté, après bien des hésitations, de reprendre le site dont l'État voulait se débarrasser pour 1 euro. Alors je rappelle que quand on parle de Charlemont, on parle quand même d'une place forte qui fait pas loin de 80 hectares et de plus de 10 km de murailles. On ne voit de Givet que la pointe est, qui n'est qu'une infime partie de l'ensemble de la forteresse. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dedans pour, un, l'entretenir, et deux, investir. Et le budget de la communauté de communes qui est consacré à Charlemont est un budget particulièrement important. Donc à titre personnel, en tant que maire de Givet, je sais que la commune de Givet n'aurait pas eu ni la capacité financière, ni les moyens de s'occuper de ce site. Et je suis éminemment reconnaissant à la communauté de communes et au conseil de communauté qui compose cette communauté d'avoir accepté de reprendre Charlemont. Donc c'est un fardeau important. Ça peut être un phare pour la communauté de communes, mais pour que ça soit un phare pour la communauté, il faut mettre de l'argent dedans. Ouais. Et heureusement que la communauté de communes est là avec le concours de l'État qui, pour l'instant, se limite à 1 400 000 euros de subvention au titre du contrat de plan. Quoi. Donc, merci à la communauté de communes. Charlemont est un espoir pour la pointe et pour Givet. Et je souhaite vivement qu'en 2018, on puisse avoir plus de 2 700 visiteurs de Pâques à la Toussaint et que l'accès libre à la place d'armes soit à nouveau rétabli.
Alors, avant... Si,
en fait, effectivement, pour nous, le premier challenge, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs possible au niveau du patrimoine historique à visiter, mais on va pas en rester là. Je dirais, il y a une grande réflexion qui est actuellement et qui va avoir lieu au Conseil de communauté, pour savoir comment on va... quelle est la gouvernance qu'on va mettre en place sur ce site-là. Parce que, bon, il y a d'une part la visite historique, mais il y a plein d'autres choses à faire. Quand on voit, par exemple, à Namur... Tout ce qui est fait à Namur, sous l'égide d'une ASBL, c'est une association. Alors, je ne sais pas quelle sera la forme de notre gouvernance qu'on mettra en place, mais ils font plein de choses tout à fait différentes et qui sont gérées par cette ASBL. Donc, c'est à mon avis, dans cet esprit-là, qu'il faut qu'on essaye de travailler, faire en sorte que ce site soit de multi-activité, enfin de visite historique, mais qu'on ne fasse pas que ça.
Mmh. Ça, c'est important. Alors, ASBL, loi, association, loi 1901 pour nous en France.
C'est ça. Mais pour information, lorsque Bernard parle de Namur, il parle évidemment de la citadelle de Namur.
Oui.
Bien sûr que le fort de Givet n'existe pas.
Le fort Condé, tiens.
Il y a plein de forts à Givet.
Le fort Condé.
Alors le fort Condé est
vite
effectivement
fait,
un fort. Parce
que
oui.
Ça fait partie aussi du territoire.
Le fort Condé, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Ouais.
Ça appartenait à la ville de Givet. Bon, on avait un projet touristique important, mais du fait de la fermeture du CEC, il a fallu être raisonnable. Donc on s'est dit, bon, on ne peut pas en rester là et laisser le fort Condé dans l'état où il était, embroussaillé comme il était. Donc là, il y a eu des travaux qui ont été faits par les entreprises, par des chantiers d'insertion. Et là, franchement... Le Pentagone, il est complètement fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on ne va pas en rester là parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Quand les visiteurs verront la vue qu'on a de Charlemont, quand on est, quand on passe sous la muraille, qu'on arrive et qu'on a la caponnière et qu'on voit le fort Condé, c'est tout à fait exceptionnel.
Donc, ça fera partie du même projet touristique que Charlemont, je suppose. Le fort Condé sera englobé dedans.
Il y a eu un gros travail qui a été fait.
Vous aurez un joli triptyque là, dans un rayon, je vais dire, de quelques kilomètres entre la chapelle de Walcourt, le fort Condé et Charlemont. C'est bien parce que ça risque de nous amener effectivement quand même pas mal de visiteurs.
Ah, c'est un beau trio.
Charlemont, Charlemagne.
Charlemont, Charlemagne, oui, donc c'était pas quand on a dit Charlemagne, c'était un peu volontaire, hein. C'est pas voulu faire une homonymie, mais pas loin. Ben, Charlemagne, bon, il faut remercier Claude Brouwer quand même, bon, d'avoir lancé cette opération-là avec le Charlemagne. Ça n'a pas été simple, hein, de commencer lancer le tourisme fluvial. Donc on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est possible. C'est parfois compliqué à gérer avec VNF, avec la Meuse, avec la frontière, avec tout ça. Mais c'est un aspect du développement touristique qui n'est pas négligé. Donc Claude Brouwer a décidé de ne pas renouveler son bail avec nous, pour des raisons qu'on comprend, hein, il y a beaucoup de raisons personnelles, donc il voulait passer un peu la main et revenir peut-être à ce qu'il faisait antérieurement. Donc là aujourd'hui la communauté de communes, elle a toujours le bateau bien évidemment, et on est en train d'essayer de rechercher des solutions pour le faire de nouveau naviguer. Donc la situation était aujourd'hui un peu compliquée dans la mesure où Claude Brouwer a décidé de ne pas continuer à l'exploiter, ce qu'on respecte et
On en est désolé parce qu'il a quand même fait un excellent travail. Et donc aujourd'hui, on recherche des solutions, donc effectivement, pour continuer à faire naviguer ce bateau-là, parce que je crois que c'est fait partie du développement touristique sur la Meuse. C'est à mon avis un élément très très important. C'est un élément pour dynamiser un petit peu cette activité-là. Donc c'est ça qu'on voudrait faire en sorte que la Meuse devienne un axe de développement du tourisme fluvial. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce bateau. Donc il faut vraiment qu'on relance cette opération-là et qu'on trouve des solutions.
Ce qu'il est important de souligner, c'est que finalement, après seulement 2 ans d'activité, finalement, l'activité de M. Bruyre était proche de l'équilibre. Alors, permettait certainement pas d'en devenir riche, mais en tout cas, elle était proche de l'équilibre, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce qu'au bout de seulement 2 ans, beaucoup d'entreprises rêveraient d'être déjà à l'équilibre. Deux saisons, tout à fait, mais c'est même pas 2 ans, c'est 2 saisons, effectivement, avec des conditions d'exploitation qui n'ont pas toujours été faciles. On a encore eu quelques avatars, quelques plâtres à essuyer la première année avec le bateau. Des conditions d'organisation à mettre en place avec Voies Navigables de France qui n'ont pas toujours été simples à mettre en place, mais je pense que on est arrivé quand même à quelque chose de relativement sympathique. Donc voilà, dommage que M. Bruyre ait jeté l'éponge, mais bon, c'est ainsi, c'est la vie. Donc il nous appartient maintenant de lui trouver un successeur et de faire en sorte que ce bateau puisse voguer à nouveau le plus rapidement possible.
Ce sera forcément la solution, ce sera forcément une succession, enfin la succession
non,
de quelqu'un.
Enfin, là, je pense que le sujet il est complètement ouvert. Hein, donc il faut de toute façon que ce bateau-là continue à.
Et rapidement, c'est demain, l'ouverture de la saison.
Il faut que ce bateau continue à faire ce pourquoi on l'a construit. Voilà, donc après, la manière, on verra la manière la plus facile, la plus simple, mais tout à mon avis, c'est particulièrement ouvert.
Alors je voulais aussi faire une parenthèse et remercier Jean-François pour ses liens, hein, pour ce petit-déj. Merci en tout cas et meilleurs vœux à toi et à toute ton équipe Jean-François. Voilà, c'était juste la parenthèse. Charlemagne, terminé. Claude, tu voulais intervenir?
Oui, non, moi je n'ai rien à ajouter là-dessus, sur ce sujet. Sinon, comme tout à l'heure l'a dit Bernard, moi je voudrais remercier Claude Bruyre, hein, qui n'est pas un giftois, et qui malgré ça s'est engagé personnellement et familialement de manière tout à fait exceptionnelle pour pouvoir mettre en place, en partant de zéro, cette opération. Et franchement, moi c'est quelqu'un que j'admire, pour lequel j'ai beaucoup d'estime.
Tourisme, on a fait le tour, je pense, hein, la taxe de séjour, Charlemont, Charlemagne. J'avais noté Gemapi.
Alors Gemapi, oui, c'est... Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est...
On est en plein dedans.
Oui, au 1er janvier, donc, c'est la loi NOTRe, cette nouvelle organisation territoriale de la République, qui prévoit que les communautés de communes deviennent compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Rien que ça. Alors ça, c'était quelque chose qui était fait par l'État, qui devait être fait par l'État, qui n'était pas toujours bien fait. Et aujourd'hui, nous devenons compétents. Et ça fait déjà quelques mois que l'État devient exigeant vis-à-vis de la compétence qu'on va exercer. Donc il va falloir...
devienne bon.
Non, pour qu'on fasse ce qu'il n'a jamais fait.
Voilà.
Et là, il va devenir exigeant. Donc on a quelques dossiers sur le feu qui sont quand même des dossiers importants, comme la digue du port de Givet, on a tout un tas de choses comme ça, qui sont à gérer. Mais bon, pour la communauté de communes, c'est pas simple, puisque ça veut dire, et Claude pourra en parler, ça voudrait dire qu'à partir du 1er janvier, c'est la communauté de communes qui est responsable de la mise en place, par exemple,
des panneaux
anti-inondation sur Givet, ce que la communauté de communes est totalement incapable de faire.
À ce sujet, je profite de la perche qui m'est tendue pour dire que ce matin, les services techniques municipaux vont commencer à installer la phase 2 de nos protections contre l'inondation, car la Meuse monte depuis quelques semaines. Elle monte, puis elle redescend, puis elle remonte. Et comme on nous annonce de la pluie pour la fin de semaine, on a préféré anticiper et monter nos protections dans le calme et la tranquillité à partir de mercredi, plutôt que d'être obligé de le faire dans la précipitation ce week-end. Quoi.
Voilà, et c'est ce qu'on annonçait effectivement depuis ce matin. Donc cela va engendrer quelques problèmes de... stationnement, hein, quelques désagréments pour la population, mais voilà, soyez patients, puisqu'effectivement, cette phase 2...
De la prévention des inondations, voilà. On le faisait déjà, parce que Pascal pourra en parler, on va faire un gros travail sur la houille, on est prêt à en faire un gros aussi sur le Viroin, sans qu'on soit obligé de prendre la compétence, je dirais que ça nous parle quand même, les problèmes des inondations, hein. on est tous à des titres divers, mais ou à des degrés divers, très sensibles aux inondations, donc là, il y a des gros travaux qui vont être faits sur les berges de la Houille, Et Pascal pourra en parler, c'est quand même assez, assez conséquent.
Enfin, oui, tout... oui, c'est J.V. et Fromelin. Hein,
alors, quel type de travaux, Pascal, sur la houille?
Alors, c'est de la réfection de berges essentiellement. Donc, d'abord sur les parties qui sont du domaine communal ou du domaine intercommunal, évidemment, mais il y aura certainement aussi des travaux à mener en partie privée. Donc, dorénavant, c'est la communauté de communes qui devra engager ces travaux, étant entendu qu'il appartient à chaque privé, normalement, d'entretenir sa berge. Donc, ça veut dire que s'il ne fait pas les travaux, la communauté de communes devra prendre les moyens nécessaires pour imposer ceci. Ainsi, on veut la loi. Il ne faut pas oublier que cette loi GEMAPI n'est une conséquence que de la tempête Xynthia en 2000. Chacun se souvient de ce qui s'était passé à la Faude-sur-Mer.
En Vendée, oui, absolument.
Des gens qui se sont retrouvés submergés très rapidement en un temps extrêmement court. Et en fait, ces gens avaient été submergés simplement parce que la digue qui les protégeait des pénétrations marines avait cédé. Cette digue était de la responsabilité de l'État. Donc, comme malheureusement, depuis souvent, l'État, quand il n'a plus les moyens d'assumer
c'est quand même le maire qui a été condamné.
Et c'est quand même le maire qui a été condamné, comme le soulève Claude juste à propos. Donc, comme souvent, l'État n'a plus les moyens d'assumer ses responsabilités, eh bien, il les délègue aux collectivités, mais il ne met pas souvent l'argent qui va en face. Et là, l'exemple GEMAPI en est l'exemple type, c'est que les intercommunalités vont devoir assumer cette compétence. Et l'État, dans sa grande générosité, leur a laissé la possibilité de créer une nouvelle taxe, voilà, qu'on appelle la taxe GEMAPI, qui peut aller de 0 à 40 euros par habitant. Mais donc, c'est les communautés de communes qui vont passer pour les vilains petits canards si elles lèvent cette taxe. Et malheureusement, on sera sans doute obligé de la lever. On essaiera le moins possible, évidemment, mais on ne voit pas aujourd'hui comment on pourra y échapper, très clairement, parce qu'on sait que les coûts de cette nouvelle compétence vont être très, très, très élevé.
Alors, très clairement, bon, je précise que cette loi a été votée évidemment sous le gouvernement précédent, par la majorité précédente, et les conséquences qui vont en découler aujourd'hui, hein, par les communautés de communes qui créeront cette fameuse taxe GEMAPI qui pèsera sur les ressources des foyers et qui les grèvera. Il ne faudra pas en imputer la responsabilité ni aux communautés de communes actuelles, ni au gouvernement actuel. Il faudra en imputer la responsabilité au gouvernement précédent. Il faut dire les choses clairement, franchement, sans hésiter à certains moments.
Mais c'est sûr, parce que d'habitude, quand il y a un transfert de compétences, il y a un transfert aussi de recettes qui ne sont jamais suffisantes pour exercer la compétence transférée. Mais là, aujourd'hui, il y a, comme dit Pascal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a transféré aux communautés de communes aucune recette pour le faire. On leur a dit, si, on va vous créer un impôt, vous n'aurez qu'à lever, comme ça vous fera des recettes. Voilà comment les choses ont fonctionné. C'est quand même un cas
Donc ce
unique.
Sera un nouvel impôt pour...
C'est un cas unique. C'est-à-dire que, normalement, c'est une compétence qui aurait dû rester à l'État, qui a déjà... à travers les impôts des gens, les ressources pour le faire. Cet argent-là, il va être gardé par l'État pour faire autre chose.
Ah oui, c'était inclus dans,
bien sûr.
Dans les impôts.
Et c'est les gens qui vont de nouveau payer une seconde fois quelque chose pour lequel ils payaient déjà. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Mais
Claude a bien raison, ce n'est pas de la responsabilité des communautés. Nous n'avons pas le choix. Si on veut faire quelque chose, il faudra bien qu'on lève cette taxe. On la levera au plus juste possible.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'État aime bien faire appliquer aux autres ce qu'il a du mal à s'appliquer à lui-même. Donc quand on dit que la protection contre les inondations, finalement, l'État était bien en peine d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de cette chose-là, on peut être sûr et certain qu'aux communautés de communes, par contre, l'État sera particulièrement vigilant pour que les travaux soient menés en bonne et due forme pour protéger au mieux les habitants contre les inondations. Bon, on n'a pas attendu cette compétence pour le faire. La ville de Givet a mené de nombreux travaux. Je ne ferai pas offense à Claude en disant le contraire, évidemment. Mais il reste encore des choses à faire. Et aujourd'hui, ben, c'est clairement la responsabilité en cas d'inondation qui est transférée sur la tête du président de la communauté de communes à partir de ce 1er janvier 2018.
Bonne chance. On fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après.
J'ai l'art de me défiler. Je passe tout. collectionne les actes manqués. J'aurais dû oublier ton regard rempli mes pensées. Quelques mots étrangers, pas même juste le temps de s'aimer. Mes minutes sont comptées, même si c'est pour une heure. Libre pour le meilleur, j'irai ici ou ailleurs. Hey. Si je dois courir à l'autre bout de Rio, traverser la ville, je le ferai s'il le faut. Ne me dis surtout pas qu'il est trop tard pour danser le slow. Revoir ton sourire, tes lèvres, le goût de ta peau. Qu'est-ce que tu penseras nos adieux, chaque jour encore un.
Merci Rachid, merci de nouveau à Jean-François, hein, la boulangerie Porcelli à Givet Notre-Dame pour effectivement nous avoir fourni ce matin cet excellent petit déjeuner. Merci Jean-François. Les projets 2018, hein, parce que c'est vrai qu'une heure paraît toujours très longue et au final elle n'est jamais suffisante. Donc la fibre, Pascal.
Oui, la fibre, donc
Préciser de quelle fibre il s'agit.
Alors, de la fibre optique, donc de l'Internet haut débit. Donc, c'est un dossier qui est porté aujourd'hui par la région Grand Est, hein, qui donc a mis en place un marché public sur toute la région Grand Est. Ce marché a été attribué à une société qui s'appelle la société Losange. Et donc, il est prévu que cette fibre optique soit déployée sur 4 années, à commencer fin 2018, début 2019. Donc, en théorie, en 2022, tout le secteur de la communauté de communes devrait être couvert en fibre optique. Et chaque foyer serait équipé d'une prise. Donc après, c'est au choix, je vais dire, des habitants de s'abonner ou pas à un opérateur de téléphonie, mais telles sont prévues les conditions. Alors,
L'année dernière, il avait été demandé à la communauté de communes de sélectionner un certain nombre de communes dites prioritaires pour le déploiement. Ces communes ont été retenues dans le plan de déploiement de la région Grand Est. Alors, elles sont toujours soumises, je vais dire, à l'intérêt économique de l'entreprise qui va faire l'installation de la fibre optique, évidemment. Mais dans l'ordre, ça devrait commencer par, en arrivant de Charleville, par Anchamps. Ebbe, Fépin, Montigny, toutes les petites communes qu'il y a sur la route, donc Hierge, An, Aubrive, Chaux est déjà équipé, pardon. Il y aura Landrichamps qui aujourd'hui n'a absolument pas de couverture internet. Et nous avions mis Givet parce que comme Givet est pratiquement au bout de ligne, l'idée était d'allécher l'opérateur, je vais dire, à venir jusqu'au bout parce que tant qu'à faire d'installer la fibre optique, ben, autant faire tous les raccordements nécessaires chez tous les particuliers en même temps. Et je parle sous le contrôle de Claude, mais a priori, les services de la ville de Givet ont été contactés par la société Losange très récemment, donc ce qui veut dire que le projet avance. L'idée est de rencontrer les services techniques et d'étudier où sont les réseaux, comment ça va s'opérer pour pouvoir démarrer le chantier prochainement, en tout cas on l'espère avant la fin de l'année. Alors comment ça va se passer? Tout simplement on va se servir de tout le câblage téléphone qui existe déjà, donc là où c'est enfoui, on glissera la fibre optique en parallèle du fil de téléphone, là où c'est en aérien, ça restera en aérien, mais en tout état de cause, on va pas réouvrir forcément toutes les routes partout où tous les réseaux ont déjà été enterrés, évidemment.
Claude.
Oui, évidemment. Bon, effectivement, s'agissant du déploiement de la fibre, la commune du Givet a été contactée en direct par cette société Losange, alors que nous n'avions eu aucune information de la part de la région, pouvoir organisateur, sur le fait de savoir qui allait nous contacter. Alors, on était un peu surpris, et nous avons donc sollicité la communauté afin qu'elle nous assiste lors de cet entretien. Ce qui va être fait, puisque Pascal Gillot et sans doute Marc-Henri Ligonnège participeront au premier rendez-vous que les services techniques de la ville où j'y vais et de la ville de Givet et l'adjoint aux travaux auront avec Losange. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra communiquer davantage sur la manière dont les choses vont se faire et sur la façon dont Givet pourra être équipé avec le calendrier, les travaux, etc., etc.
Alors, il faut quand même noter que la communauté de communes ne va pas rester neutre dans cette histoire-là, parce qu'elle va quand même devoir mettre la main au porte-monnaie, et ça va lui coûter quand même la modique somme de 1 900 000 euros, donc c'est quand même pas rien, mais aujourd'hui on ne peut pas imaginer que le secteur de la communauté de communes ne soit pas couvert en haut débit, ce serait vraiment une injure faite à la technologie et à toutes nos entreprises qui ont besoin de ce haut débit.
Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher que ce qui était prévu, mais ça reste quand même une somme.
Oui.
C'est beaucoup moins cher.
Alors, très rapidement, peut-être la petite enfance, SMA, j'y vais, septembre 2018.
Donc, là, de concertation avec mes collègues et avec toi, Odile, si tu le veux bien, on a encore plein de choses à dire.
Je sais.
On a encore plein de choses à dire, à la fois sur le bilan 2017 et sur les projets 2018. Et si on dit tout ce qu'on a à dire, on risque de déborder du cadre de cette émission. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, de façon tout à fait exceptionnelle, revenir mercredi prochain aux mêmes horaires, si toutefois ça ne te dérange pas? Et si toutefois Jean-François Porcelli veut bien encore nous faire don de croissants et de pain au chocolat.
Et on reste
aussi,
pas les
aussi
mêmes,
bon qu'aujourd'hui, pour continuer, parler du CLS, parler de la petite enfance,
pourquoi pas
parler du site Porcher à Revin, si tant est qu'il y ait des gens qui nous écoutent à Revin. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et puis
aussi d'Electrolux avec Cédly, etc. Où je sais aujourd'hui au tribunal de commerce de Compiègne que la décision de continuation ou d'utilisation va être prise. Hein.
Ah bon, bien.
Oui, parce que si malheureusement Radio Fuji ne peut pas être diffusé à Revin aussi, de manière aussi intéressante qu'on le souhaiterait, et on le regrette d'ailleurs pour les habitants de Revin, la communauté CETA reste de près à tout ce qui se passe dans cette commune.
Déchetterie, etc. Orac.
Bille à l'Orac, voilà. Donc il y a encore bien des choses à dire, bien des choses à dire.
Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine alors.
Oui, très bien. Ouais, avec plaisir.
Merci Rachid, merci à vous. Belle année en tout cas, hein. Belle année à toute l'équipe également de la communauté de communes.
Eh bien, merci Odile. Donc, nous renouvelons, enfin, en tout cas, personnellement, je renouvelle mes souhaits de bonne année à tous les habitants de la communauté de communes. Et je te souhaite à toi une excellente journée.
Merci à vous. Et moi, je vous retrouve dès 9h. Merci Rachid. Au revoir.
Merci Odile.
Au revoir.
À bientôt.